Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et là, je me retrouve dans un écolieu quelque part en Bretagne. Et hier, au cours d'une discussion, je me rends compte qu'il y a quelques temps, il y a 2 ans de ça, au Grand Bivouac, un festival autour du voyage, j'ai rencontré 2 voyageurs qui débarquaient en stop et qui faisaient un tour de France sans argent et sans réellement savoir où aller. Et voilà que 2 ans plus tard, je retombe sur ces 2 stoppeurs qui sont cette fois installés dans cet écolieu, dans une yourte. Et ce matin, un petit déj sur la table, un carnet de voyage qui présente cet itinéraire. Donc Pierre-Élie et Anouk, je vais m'intéresser un peu à cette histoire de Tour de France qui a duré, je crois, 10 mois, en stop et sans argent. Alors en feuilletant votre bouquin, on se rend compte que c'était hyper dense de rencontres. Il y a plusieurs articles presse aussi qui ont été publiés sur votre aventure, donc on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt pour cette envie de partir en stop. Alors peut-être commencer par ça. Qu'est-ce que c'est pour vous faire du stop? Quelle est votre vision du stop?
Faire du stop, pour moi, c'est juste se mettre au bord de la route et puis voir qui on rencontre. Mais du coup, j'aime bien parce que ça ouvre un peu tous les horizons sociaux. On était pas mal à Bordeaux dans nos réseaux un peu militants, alternatifs. Et on aurait pu faire un tour de France des alternatives. Et tout le monde, d'ailleurs, nous posait la question, mais pourquoi vous n'allez pas voir toutes les alternatives? Et nous, on disait, parce qu'en fait, on a besoin de voir d'autres gens et de voir d'autres milieux, voir d'autres raisons, d'autres façons de vivre. Et ça, je trouve que ça aère un petit peu la tête. Du coup, on a bien fait de partir là-dedans et on a vu vraiment plein d'horizons. Et ça fait du bien.
Donc pas forcément se conforter avec les gens qui nourrissent la même direction, la même idéologie, mais vraiment se frotter ou se confronter à cette diversité humaine grâce aux aléas du stop. Et pour toi, le stop, ce serait quoi, Pierre-Élie?
Pour moi, le stop, c'est apprendre à faire confiance, à lâcher son ego aussi, d'accepter d'être fragile au bord de la route, d'avoir besoin des gens et voilà, on peut pas forcer quelqu'un à s'arrêter, enfin on pourrait mais on vaut mieux voilà, attendre un peu plus peut-être parfois et puis tomber sur la personne qui au bout de 4 heures d'attente va s'arrêter et là ça va être l'ange gardien de la journée et en général une super rencontre. Alors après sur le voyage on a rarement eu 4 heures d'attente mais pour moi le stop c'est ça, c'est la confiance et la beauté des rencontres.
Et là, le stop, tel que vous l'avez pratiqué, c'est pas pour aller, enfin si, pour aller du point A au point B, oui, mais pour une durée indéterminée et sans argent. Donc il y avait une vraie réflexion autour de se vivre sans argent et de partir dans la durée sans réellement savoir où aller. Donc comment est-ce que vous avez imaginé ce projet qui peut paraître un peu fou? Donc vous avez tous les deux, je crois, au moment du départ, 20 et 25 ans. 20 et 25 ans et cette envie de se dire, bon, allez, on part en stop. Mais comment est née cette idée, ce projet et comment est-ce qu'on le prépare?
C'est parti parce qu'on adorait le stop tous les deux et puis on se retrouvait un peu frustrés d'avoir un point B justement parce qu'il faut arriver à l'heure, du coup t'as certains stress ou alors des gens qui te proposent des choses sur la route et tu dis non parce qu'il faut que je sois arrivée ce soir à tel endroit et tout. Et du coup on s'est dit mais ça serait trop bien de partir en stop mais où on sait pas où on va déjà et puis où on n'a pas de durée quoi. Pierre-Élie avait fait une expérience plus d'un voyage en France long en stop et du coup il s'est dit waouh, il y a plein de choses à voir et moi j'ai beaucoup voyagé avec mes parents à l'étranger mais du coup j'étais super curieuse de voir aussi la France parce que je connaissais pas du tout et du coup voilà c'est né comme ça et c'était parti après et sans argent c'est juste je sais pas un mois ou 2 mois avant on s'est dit nous on regardait beaucoup Nuit et Culottée et tout et on se disait ouais un jour on essaiera sans argent et tout et mais c'était pas l'idée de base et puis à un moment on s'est dit mais en fait si on n'essaye pas juste au début on n'arrivera jamais à le faire quoi et du coup on s'est dit on essaye 2 semaines et puis après si c'est trop lourd ou trop fatigant parce que on voyait quand même chez Nuit et Culottée que ils sont un peu fatigués quand même à la fin et on se disait 10 mois je sais pas trop et du coup on s'est dit on essaye 2 semaines et puis au bout de 24 heures, c'est même plus une question de savoir si on le faisait comme ça ou pas. En fait, on s'est dit, mais c'est, en fait, c'est comme ça qu'on veut le vivre, quoi. C'est clair. Et c'est tellement enrichissant et c'est tellement ce qu'on recherche, toutes les formes d'échange qui existent au-delà de l'argent, en fait. C'est pour ça, quand t'enlèves l'argent, tu vois toutes les autres ressources. Donc, c'est ça qu'on voulait explorer vraiment.
Donc c'est vraiment un choix, c'est ça qui est important de comprendre dans le projet, c'est pas parce que vous n'aviez pas d'argent, c'est parce que vous avez choisi de faire l'expérience du sans-argent. Pierre-Élie, l'argent ce serait quoi? Comment tu le définirais? Quelle est ta vision de l'argent? Quelle est la réflexion que tu poses sur l'argent?
Grande question. Pour moi c'est un moyen d'échange qui peut être bien pratique, et lorsqu'on l'utilise en fait c'est directement le contre-don qu'on fait à la personne par rapport à ce qu'on obtient en échange, quoi. Alors que il y a beaucoup d'autres moyens d'échange avec les gens notamment, et l'argent ça coupe ce lien là qu'on a de pouvoir redonner derrière par rapport à ce que la personne nous a donné. Mais c'est pas quelque chose, enfin on n'est pas contre l'argent et on n'a pas de problème avec ça, c'était plus il y a tellement d'autres moyens d'échange à explorer que là on avait envie de mettre plus l'accent sur ces autres moyens là et voilà, sans se dire si on galère vraiment de fou on n'y reviendra pas, quoi. Ça restait une option, mais au final, comme je dis, il y a tellement d'autres moyens que c'était trop facile, en fait, de voyager comme ça. Et avec cette sincérité aussi de notre part, quand même, de vouloir vraiment échanger, enfin, être dans le don contre don avec les gens et pas juste profiter de la voiture, de la maison, du repas et tout ça. Mais enfin, pour nous, c'est clair qu'on n'aurait jamais fait ça comme ça, mais... explorer les différents moyens d'échanger avec les gens et se rendre compte aussi que ça fait du bien à tout le monde, quoi, de sortir un peu juste de ce rapport-là avec l'argent.
On a tous un rapport différent et souvent très compliqué avec l'argent, et le fait de se mettre sur la route, de rencontrer des gens, forcément ça interpelle beaucoup, hein, cette notion du voyage sans argent. Qu'est-ce qui vous en reste? Quelles sont les discussions qui a pu... émerger, parce que vous êtes finalement l'exemple concret qu'on peut vivre une expérience, une aventure forte, intense, sans avoir rien dépensé, et donc souvent les mémoires, les souvenirs qui restent sont souvent meilleurs que si on avait acheté un voyage je ne sais où.
Pour moi c'est, on a fait un voyage plus près de l'humain, parce que du coup la seule chose qu'on avait finalement à échanger vraiment ou à en contrepartie, c'était notre présence et puis la façon de raconter le voyage. Du coup, ça fait que on était 200% présents, parce que déjà, on savait pas ce qui se passait après, donc on n'avait pas trop le choix d'être sur l'instant. Et ensuite, c'était tout ce qu'on avait à donner, le fait d'écouter les gens ou de raconter le voyage, de faire voyager les gens dans notre aventure. Et je crois que ce qui leur plaisait aussi pas mal, c'était le côté... de faire partie de cette chaîne de solidarité, parce que le projet il s'appelait Voyagez-nous, parce que s'il n'y avait pas eu chaque personne une à une qu'on rencontre, en fait il n'existe pas le voyage, donc c'est plus au cœur de l'humain. Et les gens, les discussions dont tu parlais, beaucoup ils nous demandaient, en fait ça leur amenait à eux leur propre culpabilité s'ils faisaient ça. Mais des fois vous culpabilisez pas de peut-être profiter des gens, mais en le disant ils trouvaient ça bizarre, mais vraiment ça ils se disaient, moi j'arriverais pas à pas être coupable et tout. Et du coup on disait bah oui, au début forcément il y a ce côté là parce qu'on, c'est tellement inhabituel et on a tellement la société, la valeur de l'argent qui est super présente. Si t'as pas d'argent et que tu peux pas faire en retour, c'est assez mal vu en fait. Et du coup on disait bah ouais, mais en fait là ce moment là qu'on partage, et tous les gens après qu'on soit passé chez eux qui nous remerciaient mais tellement d'être passés, d'avoir fait un petit truc dans leur quotidien qui change, d'avoir eu des discussions, d'avoir eu de l'écoute, d'avoir eu de la compagnie, et ils nous remerciaient tellement. Et puis nous on était mais c'est nous qui devons vous remercier, c'est à l'envers. Et les personnes elles nous répondaient à la fin, oui, mais enfin, ça coûte rien une bière par rapport à faire ce que vous faites et se mettre au bord de la route. C'est super dangereux. Et en fait, finalement, après la rencontre, le rapport s'inversait. Où c'était eux qui se disaient, mais vous êtes fous de faire ça. Et en même temps, c'est génial parce que de nous permettre de vous rencontrer, c'était trop bien. Et en fait, l'argent, ça coûte pas grand-chose parce que t'es encore dans ta zone de confort. Mais si on n'avait pas encore rencontré les gens ou fait cette rencontre-là, c'était difficile pour les gens de comprendre qu'est-ce qu'il pouvait y avoir en fait à la place de l'argent. Et c'est, sauf que c'est pas quantifiable en fait. On peut pas dire on a passé tant d'heures, donc ce qui vaut tant d'euros. On a passé tant de racontages de voyage, donc ça vaut tant d'euros. C'est inquantifiable. Et c'est ça le don contre don. C'est la personne, elle donne sans compter. Et du coup, toi en retour, comme tu peux pas le quantifier, bah tu donnes sans compter. Et du coup, ça fait un échange. Et de l'échange crée le lien. Et du lien, ça crée même pas mal de des amitiés, de l'amour même instantané entre des personnes. Et c'était trop. C'était trop beau, quoi.
Combien de personnes vous avez croisées sur le chemin? Vous avez donc celle-là sur la table est posée, ce carnet de route, hein, donc, qui a été tenu, je crois, essentiellement par toi, Anouk. Donc, quelle était l'idée de ce carnet? Est-ce que vous avez réussi à garder un peu des chiffres en tête sur le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de personnes rencontrées, le nombre de nuits passées à l'extérieur? Parce que j'imagine que toutes les nuits n'ont pas forcément été sous le toit de quelqu'un rencontré, ou pas. Je ne sais pas comment tout ça s'est passé.
Alors oui, on a aussi... fait un peu un bilan chiffré, ouais, du voyage, parce que ça, on a pris l'habitude dès le début de noter chaque jour qui on avait rencontré en stop, chez qui on avait dormi, et maintenant on a aussi un document assez mémorable du voyage sous cette forme. Et du coup, niveau chiffres, ça donne 1027 voitures dans lesquelles on est monté pendant l'année, et 150 maisons environ dans lesquelles on a été, mais il y avait souvent plusieurs personnes, pas toujours dans les maisons, mais voilà. Et 27 000 km parcourus dans l'année pour une nuit dehors, donc la dernière semaine du voyage sur une plage en Corse, donc fin juillet, ça va.
Sur l'ensemble du voyage, donc sur les 10 mois, tous les soirs, quelqu'un vous a ouvert sa porte, et chaque fois un inconnu.
Mmh. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Tous les soirs, mais des fois on n'y croyait plus, hein. Mais mais ça arrive. Mais en fait, quand on réfléchit deux secondes, il existe tellement de gens en fait dans la vie qu'il y en a bien. Il suffit d'une personne qui dise oui, donc c'est pas grand chose. Et la seule fois où ça fait que ça a pas marché, et en réalité déjà c'était deux jours avant la fin du voyage. Et pour moi, je trouve que ça me faisait du bien parce que encore une fois, ça nous disait que on n'était pas tout puissant. Et justement. Que t'as beau voyager longtemps en voyage sans argent, et le voyage sans argent, t'es ramené à ta faiblesse et au fait que t'es interdépendant. Et là, le fait de pas réussir une nuit, ça veut dire que c'est pas nous qui avons réussi. C'est à chaque soir, c'est les gens qui ont à un moment se sont dit bon, ok, on a envie de les héberger, on a envie de les rencontrer. Du coup, j'aime bien le fait qu'il y ait une nuit qui ait pas marché. Et puis en plus, c'était en Corse. Et le problème, c'était plus, on était dans un lieu très, très, très touristique. Et en fait, du coup, toutes les maisons étaient blindées. Et on a demandé à beaucoup de gens, même chez les prêtres, c'était blindé. C'est la première fois qu'on a demandé chez les prêtres. Et du coup, voilà, à un moment, quand il n'y a plus de... Enfin, il n'y a que des réponses de non, faut accepter que c'est la nuit dehors. Mais bon, en juillet, c'était sympa le destin, quand même. On est parti en hiver, hein, donc ça aurait pu être vraiment différent, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
En montant dans la voiture, vous aviez quand même une direction, ou bien c'était la voiture s'arrête, la personne vous demande vous allez où, et vous répondiez on sait pas.
Alors, il y a plusieurs trucs. Des fois, on avait des sortes de grandes directions. On s'était mis en tête, je sais pas, au début d'aller en Alsace, mais on a fait plein de détours. C'était juste pour se dire de bouger de là. Puis plus ça allait, même au début, c'était assez précis. Puis plus ça allait, moins c'était précis. Même à un moment, on a oublié notre atlas super tip-top et tout. Donc, on savait même pas dans quelle direction on allait. Si c'était vers le nord, le sud, on était complètement paumés. Et au début, du coup, des fois, on disait on va par là parce qu'on n'avait pas capté quelle était la ville d'après. Et du coup, les gens étaient un peu complètement déboussolés. Mais pourquoi ils savent pas où ils vont? Et ça leur faisait peur, en fait. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit on regarde le bled qu'il y a après. De toute façon, il faut bien choisir un bord de route. Hein. Et du coup, on regarde le nom de la commune et on le dit aux personnes. Et puis dans la voiture, on explique notre voyage. Et là, ils comprennent mieux pourquoi s'ils vont beaucoup plus loin, on va beaucoup plus loin avec eux. Mais sur le bord de la route, comme ça, ça les déstabilisait trop. Mais c'est arrivé une fois où on dit j'avais encore oublié le nom de la commune d'après. Et j'ai dit par là. Et ils ont dit nous aussi, on va par là, monter. Et on est monté et on savait pas où on allait. C'était trop bien. Mais il faut vraiment qu'il y ait du répondant en face et que les gens ils soient un peu détendus. Parce que... Et du coup, ça, c'était chouette. Ouais. Donc on choisissait notre direction comme ça. Ou alors, on était sur un rond-point à un moment. On s'est dit on va vers le sud et tout. Et puis, on avait le soleil dans la tête. Ça faisait une demi-heure qu'on attendait. C'était pas agréable. Il n'y avait pas trop d'endroits. On s'est dit, on change de sortie de rond-point. Et puis comme ça, on s'est mis dos au soleil et on est parti en 5 minutes. Et des fois, c'est juste le contexte qui fait que c'est pas très pratique. Et du coup, voilà, donc au lieu d'aller vers le sud, on est allé vers le nord et ça a complètement changé de direction. Ça, c'était une grande liberté quand même. Donc voilà, après, on montait dans ces voitures au fur et à mesure. Et puis, donc soit la personne a proposé, soit à un moment, il y a eu toute une phase où justement, quand on commençait à être moins l'hiver et que le soleil allait plus tard, les gens pensaient moins à nous demander. Du coup, on commençait à essayer de demander aux gens dans les voitures et c'était compliqué parce que du coup, on s'est rendu compte que si les gens proposent pas, et de toute façon, à force de parler, ils ont compris comment on fonctionne. Et donc, s'ils ont pas proposé, c'est qu'il y a un truc qui les arrête, quoi. Donc, on a arrêté de demander dans la voiture. On s'est dit, en fait, les gens comprennent et c'est bon. Et on a commencé à demander plus dans les villes ou les villages, toquer aux portes dans les villages et demander en ville. Mais il y avait toute une réflexion autour des mots aussi parce que on disait on fait un voyage sans argent. Donc au début, la première semaine, ok, tout le monde comprenait. Et puis on est allé vers la Savoie et là, tous les gens, ils nous donnaient de l'argent à la fin. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on dit qui fait qu'ils comprennent pas que c'est pas qu'on en a pas, c'est qu'on essaye de voyager sans. Et du coup, on était, quel mot on pourrait utiliser? Parce qu'en plus, c'était un peu gênant. C'était un peu juste au moment où ils partent, ils le glissent dans la main. Sauf que du coup, nous, on n'en veut pas, donc c'est gênant de lui rendre. Lui, c'est gênant parce qu'il se rend compte qu'il nous a donné de l'argent et que du coup, il a pas forcément super capté le voyage. Enfin bon, on s'est dit, faut qu'on arrête de se remettre dans ces situations. Donc on a dit, on fait un voyage sans utiliser d'argent. Et après, on n'a plus de problème du tout, quoi. Autour de ça. Ensuite, pareil, pour demander, au début, c'est super malaisant de dire est-ce qu'on pourrait dormir chez vous. Et puis, petit à petit, on trouve la formule parce que ce qui était important pour nous, c'était de pas coincer les gens, de pas leur dire, on sait pas où dormir, est-ce qu'on pourrait dormir chez vous, parce que, de demander d'une manière qu'ils puissent dire non, en fait. Et c'est pas si évident, parce que les gens, ils sont gênés de dire non. Et alors qu'en fait, c'est bien de dire non s'ils veulent pas. Enfin, nous, on veut pas aller chez quelqu'un qui a pas envie, qui est pas disponible, qui est fait à contre-cœur. Donc du coup, on a trouvé pas mal de façons de le dire, en rassurant à la fin, de dire qu'on trouvait tous les soirs, que s'ils pouvaient pas, c'était pas grave. Et en fait, le fait souvent de désamorcer ça, et du fait qu'ils se rendent compte que c'est plus une responsabilité sur eux, et ça leur faisait plus dans la tête au lieu de « est-ce que je peux ne pas les héberger ? Quelle excuse je pourrais trouver ?» Ça, c'est un peu ce qu'ils se disent dans la tête quand tu les coinces. Et au lieu de dire ça, au lieu de se dire ça, ils disaient « Est-ce que j'ai envie et l'énergie d'avoir des voyageurs ?» Et du coup, c'est pas du tout la même approche, quoi. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient pas coincés. Et donc, en fait, ça coulait tout seul. Puis aussi, il y avait le truc, plus on avait confiance dans le fait qu'on trouverait, plus ça marchait. Moins on avait confiance, plus on galérait à trouver tard, à minuit, parce qu'on se disait qu'on n'allait pas trouver. Et c'est ouf comment ça se transmet aussi aux gens, le fait d'avoir confiance ou pas. Et donc voilà, à un moment, on trouvait dans la soirée, que ce soit à 16h, 15h ou à minuit, de minuit 23h des fois. Et dans la rue, ça marchait super bien. Une personne sur trois, on s'était dit à peu près trois personnes pour trouver... l'hébergement en ville. Enfin, moi, je pensais qu'on allait faire 15 demandes avant de trouver et les gens étaient plutôt réceptifs, quoi.
Il y a la manière d'aborder les gens, donc on l'a compris dans les mots, mais aussi dans l'énergie. C'est presque quelque chose de quantique qu'on a du mal à exprimer, mais c'est cette notion de la confiance dont tu parles, ou du doute. Quand tu es dans cette énergie de la confiance, on ne sait pas pourquoi, ou peut-être qu'on le sait, j'en sais rien, mais les portes s'ouvrent plus facilement. Comment vous expliquez ce côté un peu magique qui fait que quand on est dans une bonne énergie, les choses incroyables vont se passer? On peut parler de synchronicité, on peut parler, j'en sais rien, de plan divin qui va se mettre en action pour que toutes les portes s'ouvrent. Quelle est votre définition de ce côté un peu magique de la vie qui va rendre le simple merveilleux?
Bah moi, le but du côté magique, je trouve, c'est que ça s'explique pas, qu'on peut pas réussir à l'expliquer comme ça. Après, moi personnellement, je crois encore beaucoup au hasard et au fait que on a fait certaines rencontres parce que ça s'est présenté comme ça. Mais typiquement, les rencontres sur les trottoirs, ça aurait très bien pu être d'autres personnes. Et si on les avait pas croisées, on aurait trouvé d'autres personnes aussi et ça serait resté une rencontre unique. Je crois au hasard des rencontres, même en stop, et pas que la personne qui s'est arrêtée, on devait absolument la rencontrer. Après, forcément, on trouve des terrains de discussion, des points communs, des fois, où... Donc, voilà, c'est un hasard biaisé aussi, forcément. Les gens qui s'arrêtent, ils ont leurs raisons, même si on peut les catégoriser entre la bonne action du jour pour certains, ceux qui ont toujours pris des autostoppeurs parce qu'ils en ont fait notamment avant, ceux qui galèrent dans la vie et qui s'identifient à nous en galère au bord de la route, enfin qui pensent qu'on est en galère au bord de la route, ceux qui s'arrêtent pour la première fois et qui savent même pas pourquoi ils sont arrêtés. Voilà, donc il y a un peu des catégorisations comme ça de gens qui s'arrêtent, mais il y a toujours une raison, ou ceux qui ont besoin de parler et d'être écoutés.
Et aussi, ça me faisait penser parce qu'on a toute une histoire avec nos sacs, parce que tu parlais de nos sacs, comment on fait le sac et tout. On est parti avec 20 kilos pour Pierre-Élie et 15 kilos pour moi, mais tous en se disant qu'on était en France, donc qu'on pourrait peut-être lâcher des choses au fur et à mesure. Mais on a fini avec des sacs petits de 6 kilos chacun, quoi. Et dedans, en fait, ce qui faisait le poids, c'était le carnet de voyage, l'aquarelle et l'appareil photo. Et après, on avait trois affaires et un tout petit drap. Enfin, on n'avait plus rien. Et en fait, ce qu'on portait, c'était pas mal le poids de nos peurs. On est parti avec la tente parce qu'on savait pas où on allait dormir, les duvets parce qu'on avait peur d'avoir froid, les machins, les trucs, beaucoup de fringues parce qu'on pensait qu'on ferait pas beaucoup de lessive, alors que tous les trois jours quelqu'un nous proposait une lessive. Et du coup, il y avait tout ça qui fait que plus on lâchait des choses aussi, plus finalement c'était simple, parce que du coup je sais pas, il y avait une certaine confiance. Moi, je pense que on attire forcément ce qu'on... Enfin, pas forcément, mais on attire aussi ce qu'on est. Et donc, les gens, quand ils te voient détendu, qu'ils te voient que tu as confiance dans ce qui va arriver et tout, du coup, eux, ça les met dans une idée où ils ont confiance. Ils se disent, ah ouais, ils ont l'habitude, ça a l'air simple et normal pour eux. Du coup, c'est plus facile de dire oui que quand t'es pas sûr de toi, que tu sais pas trop, t'as un peu peur. Les gens, ils disent, oulala, attends, du coup, déjà, moi, j'ai peur, donc dans quoi je m'embarque, et je préfère dire non, quoi. Donc, il y a aussi tout ce jeu d'écho un peu entre, je sais pas, ça, entre énergétique, entre choses que tu renvoies, entre images, entre... Mais c'est super subtil, la confiance, hein. Et des fois, on la perdait pour une soirée, et après, on en avait jusqu'à minuit, quoi. Et alors que des fois, on avait super confiance, et c'était assez marrant de voir comment ça jouait vraiment. Et quand on a rencontré Nance, un moment, et on a décidé, juste pile poil, à 6 mois du voyage... Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos 6 mois? On s'était dit ça 2-3 jours avant. Puis là, on a rencontré Nance. Et on s'est dit, faut qu'on se débarrasse de ces sacs, en fait. Là, c'est bon, quoi. Ça fait 6 mois quand même qu'on trouve l'hébergement tous les soirs. Que limite, on trouve une routine à ça. Enfin, dans le sens où ça devient facile pour nous, parce que on est même presque plus en train de sortir de notre zone de confort, ou en tout cas en train de se pousser un peu. Du coup, on a lâché tout et on a pris que le minimum, c'est-à-dire que des choses pour partager le voyage, en fait. Et le reste, on trouverait bien des choses. Même, on avait du coup qu'un pull, 2 t-shirts. En fait, des fois, t'en oublies un quelque part. La maison d'après, t'en as 3-4 qui te sont proposés. Donc, c'était aussi apprendre à dire non, quoi, sur toutes ces propositions, ces demandes, parce que les gens, ils se rendent compte qu'ils adorent offrir. Et du coup, ils t'offrent plein de choses. C'était, attends, matériellement, c'est compliqué de recevoir des choses, mais par contre, des visites, des échanges, ça, ouais, et tout.
C'est la sincérité et le kiff, la sincérité de notre démarche, qui était vraiment rencontrer des humains et c'était vraiment l'objet principal du voyage, pour une fois faire du stop sans rien de prévu et être disponible du coup à la rencontre, aux imprévus, quelqu'un qui nous prend, qui va nous montrer l'endroit où elle va pour se ressourcer quand ça va pas, et c'est un super point de vue dans le Luberon avec un moulin et tout ça. Et donc vraiment faire un voyage sans argent, mais dans la démarche d'aller vers les autres et de pouvoir les rencontrer comme ils sont et s'adapter aussi à eux chaque soir. Et le kiff, de, parce que ça nous fait plaisir et que le stop, c'est un choix. Enfin, tout est un choix dans ce qu'on fait. Et voilà, on a envie de profiter de chaque instant et d'être avec les gens pour partager avec eux des moments de joie, mais pas que non plus. On a partagé aussi d'autres moments plus tristes et ça nous a énormément enrichi aussi. On était là à ce moment-là et ça a aidé les gens parfois. Et donc, le plaisir d'être là où on était, quoi qu'il arrive, et de faire un voyage comme ça, ça se ressent aussi, je pense, tout ça, la sincérité et le kiff pour les gens quand ils nous rencontrent, qu'on leur explique simplement ce qu'on fait. Et ils nous disaient beaucoup, vous êtes courageux. Enfin, ils nous trouvaient courageux et nous, on était dans notre passion, quoi. Donc, c'était rigolo.
La sincérité et peut-être aussi une forme de douceur que vous avez tous les deux. Alors moi, je vous ai en face de moi, toi auditeur, tu perçois peut-être cette douceur aussi dans la voix. Et il y a effectivement cette sorte de douceur et de bonté qui est là, qui est innée, qui émane de vous et je pense qu'il peut mettre en confiance parce qu'on vit quand même dans un monde très anxiogène et quand on fait du stop ou quand on ouvre sa porte pour accueillir quelqu'un, ce quelqu'un est un inconnu, hein, même si l'inconnu est un ami qu'on n'a pas encore rencontré, mais ça reste un inconnu. Et donc cette notion des peurs, tu parlais aussi des peurs, le sac à dos, c'est vrai que cette phrase on l'entend beaucoup entre voyageurs, le poids de ton sac représente le poids de tes peurs. Donc la peur est quelque chose de très fréquent, qui est là, qui est autour de nous et qui de fréquent et de limitant surtout, quelque chose qui nous limite. Et quand on voit un autostoppeur, il y a toujours cette notion de qui sait, est-ce que je m'arrête, qu'est-ce qui va se passer, il y a presque une notion de risque. Donc j'aimerais bien terminer cette émission radio par cette notion des peurs. Quel est le risque ou quel est l'enjeu?
Ah bah ça c'est sûr que c'est au centre, du coup on représentait carrément la peur de tout ce qu'ils pouvaient avoir sur l'inconnu, sur accueillir, sur le rapport aux autres humains. Donc nous on était tout le temps face à ça en fait. Dès les premiers rapports, c'était ça, comment réussir à faire que l'autre n'ait pas peur de toi en fait. Donc là c'était vraiment notre enjeu quoi. Et c'était trop marrant de voir que quand les gens ils réussissaient à aller au-delà de ça quoi, ils faisaient le pas et ils rentraient chez eux, ils disaient ils appelaient leur femme par exemple, Marie, j'ai ramené deux autostoppeurs, ils étaient trop fiers d'eux, c'était trop marrant. Ou alors quelqu'une qui avait vraiment mis beaucoup empreinte de peur, qui était une assez vieille dame dans la montagne mais qui s'ennuyait, elle était là parce qu'il y avait son mari mais elle voulait être à la mer et du coup au début elle nous propose d'aller chercher un pâté chez elle, après de visiter sa maison, après elle se dit bon bah peut-être la tente dans le jardin, mais on n'avait pas de tente, donc ils essayent de monter la vieille tente scout, le mari nous regardait un peu, puis à force de nous observer, c'était lui qui voulait pas trop, et ben ils se sont regardés, ils ont dit bon, on a un gîte dans le village, donc on va vous ouvrir le gîte. Et on s'est retrouvés avec les clés de leur gîte, alors que elle c'était en mode, bon, je vous donne du pâté, mais c'est tout. Et après, elle nous emmenait chez tous ses voisins. Ah, j'ai des autostoppeurs à la maison, ils font un voyage et tout. Et en fait, ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire, qu'ils sont capables de sortir de leur schéma, alors qu'ils se sont dit que jamais ils prendraient d'autostoppeurs, ils s'ouvrent en fait, et c'est trop marrant de voir les gens quand ils sont comme ça. C'était super touchant à chaque fois. Bon, t'as un peu l'impression d'être une bête de foire, mais tu comprends, et c'était vraiment chouette.
Derrière vous au mur, je vois un renard, et ça me fait penser à cette phrase dans Le Petit Prince où il y a cette notion d'apprivoiser. Qu'est-ce que c'est qu'apprivoiser, hein, et c'est rendre la personne unique. C'est vrai qu'au début, quand on arrive, ben voilà, on est un parfait inconnu semblable à plein d'autres inconnus. Et à partir du moment où on commence dans une interaction, on interagit avec la personne, ben, quelque part, on l'apprivoise. Et c'est exactement ce que tu racontes. Tu passes de la tente au gîte parce que finalement, le lien s'est créé. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, ce qui nous manque le plus dans nos sociétés, c'est cette notion du lien. Et c'est ça qui nous rend souvent heureux ou malheureux, hein, le fait d'être en manque de lien ou le fait d'être en lien. Et en tout cas, merci à vous pour ce partage d'expérience. Et un voyage en stop qui a duré 10 mois, sans argent. Et tout ça, c'était quelque chose de choisi, et j'imagine c'est surtout sans aucun regret.
Ah oui, bien sûr, ouais. C'était une des très très belles expériences qui, moi je trouve que ça, le fait de faire sur un temps long, je trouve que ça a vraiment profondément changé mon rapport à plein de choses, notamment sur la confiance dans la vie, parce qu'à un moment t'as pas le choix de juste faire confiance à ce qui va arriver et à ta capacité à répondre à ce qui se présente. Et je pense que ouais, ça a vraiment changé quelque chose de profond sur l'appréhension de l'autre, d'autre humain, et la confiance globale, et donner aussi de l'amour, on va dire, à tout ce qui se présente sans jugement, quoi, parce que c'est un peu aussi ce qui coupe les liens souvent, c'est de mettre les gens dans des cases et de se dire qu'on pourra pas s'entendre, et du coup toujours essayer de trouver plutôt ce qui nous rapproche que ce qui nous éloigne. Et donc ça, c'est chouette de vivre avec ça.
Le mot de la fin.
Ouais, moi je repensais quand on a trouvé le nom au début, avant de commencer de voyager nous pour cette aventure, on n'imaginait pas autant, quoi. On adorait déjà le stop, on savait que ça provoquait des rencontres formidables, uniques, et puis aussi éphémères. Mais on n'imaginait pas tout ce qu'on pourrait vivre dans cette aventure en étant hébergé, en faisant des rencontres en stop, même très courtes mais très fortes. Et puis aussi sur la couverture médiatique ou l'intérêt des médias pour parler générosité, confiance, et on aimait beaucoup faire ça aussi pour partager un peu des ondes plus positives au milieu des journaux et des annonces habituelles. Ça a dépassé largement notre imaginaire des possibles et les liens entre les gens, des gens qui nous disaient « Tenez, ça c'est la bouteille pour les gens qui vont vous héberger ce soir quand on les quittait. » Enfin, ça a créé un monde vraiment de liens beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer à la base, alors qu'on était déjà plein de rêves. Et ça, on regrette rien du tout, c'est sûr.
Anouk, Pierre-Élie, merci à tous les deux.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.